RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
GG les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules, c'est tous les jours avec vous. C'est 3 heures de discussion, 3 heures de débat. Et si vous ratez les discussions, vous avez les podcasts à votre disposition sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Joël Dagosséry, coach de vie, est là. Pour le moment, toujours là. Elle n'est pas encore partie du pays. Elle menace, mais ce n'est pas encore mis à exécution. Emmanuel Devilliers, chef d'entreprise et des nôtres. Et Mourad Boudjelal, l'éditeur de bande dessinée.
Elle voulait aller au Groenland, elle m'a dit.
À Nouk. Elle a changé d'avis. Ouais,
je cherche un endroit beaucoup plus accueillant, avec un peu plus de soleil.
Et alors, nous accueillons notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Et notre invité est la ministre de l'Action et des Comptes Publics, Madame Amélie de Montchalin. Bonjour Madame la ministre.
Bonjour.
Bonjour, vous avez pris votre carte ?
La carte à qui ?
La carte du Parti Socialiste ?
Ah non, mais je pourrais prendre la carte DLR aussi. Vous savez, il y a beaucoup de cartes dans ce budget, si c'est ça dont vous voulez me parler.
Parce que votre budget est socialiste, c'est pas moi qui le dis, ce sont notamment les responsables de droite.
Moi, je crois qu'on n'y est pas du tout, en fait. C'est pas parce qu'on a discuté avec le Parti Socialiste que le budget est socialiste. Je peux vous donner la liste des sujets qui ont été demandés par Laurent Wauquiez. Wauquiez, il a dit, moi, j'ai 3 exigences. Je veux que vous baissiez les charges sur les heures supplémentaires. C'est dedans. Bon, on dit pas que c'est un budget républicain. Laurent Wauquiez, il a dit, avec d'autres, d'ailleurs, avec Gabriel Attal, avec les indépendants, il a dit, moi, je veux que vous dégeliez totalement le barème de l'impôt sur le revenu parce que je veux pas d'augmentation des impôts. Bah, c'est dedans. Vous voyez, moi, je pense qu'en fait, on a une mauvaise lecture.
Quand vous surtaxez les entreprises pour la 2e année consécutive, alors que cette surtaxe devait être provisoire, ça va même à l'encontre de ce que vous incarniez, vous, Amélie de Montchalin, et le président de la République. C'est-à-dire, on va essayer d'alléger le fardeau fiscal des entreprises pour faire redémarrer la machine économique. Bon, là, on fait l'inverse. Bon,
si on se refait un peu le film, parce qu'il y a ce qu'on avait, nous, gouvernement, proposé, et il y a le point d'arrivée. Et entre-temps, vous voyez, moi, j'ai passé 350 heures à l'Assemblée, au Sénat, à essayer de tirer comme une locomotive une discussion budgétaire qui est utile aux Français, et où quand même on a eu un moment des partis extrêmes, RN et LFI très clairement, qui ont voulu saboter le texte pour que nous n'avancions pas et qu'il y ait des élections. Parce que la passion, je vous le dis, du RN et de la France Insoumise, c'est pas d'avoir un budget pour les Français, c'est pas de savoir ce que doivent se passer pour les entreprises, c'est pas de savoir ce qui va se passer pour voyez, les familles, les impôts, c'est d'avoir des élections.
Et c'est ce que veulent les Français dans les sondages aussi.
Et je pense que les Français, ils veulent des élections. On a compris qu'en 2027, ils voulaient, effectivement, on a bien compris, pouvoir avoir un débat présidentiel.
Où on respecte le résultat.
Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. Et si je le dis franchement, personne aujourd'hui n'a de majorité.
Ne répondez pas précisément.
Je vais répondre sur l'histoire de savoir si c'est
la fiscalité
si c'est
supplémentaire
droite,
sur les entreprises, les 300 entreprises qui vont payer
qui vont payer le même impôt en 2026 qu'en 2025.
Alors que ça devait être provisoire.
Je suis d'accord, ça devait être provisoire. Mais on a eu un débat qui prenait la forme suivante.
Vous étiez engagé.
Oui,
je me souviens de vos propos.
Tout à fait.
C'était cet été. Vous disiez non, rassurez-vous, ça va sauter.
Parce que
vaut la parole politique maintenant.
Parce qu'entre-temps, enfin, je le dis franchement, hein, on a eu 3 gouvernements. Moi, j'ai participé à un gouvernement de François Bayrou qui a présenté au mois de juillet un budget. Puis ensuite, François Bayrou, il a été censuré. En tout cas, c'est comme ça que c'est passé. Ensuite, on a eu un premier gouvernement Le Cornu, puis on a eu un deuxième gouvernement Le Cornu. Et à un moment donné, il y a des choses qui ont changé.
Rapide, hein.
Et Sébastien Lecornu,
il
a retiré les jours fériés, qui était une mesure qui n'était pas acceptable. Et entre-temps, on oublie aussi de dire que le président de la République a annoncé qu'on allait mettre presque 4 milliards de plus dans notre défense. Ben, je vous dis la vérité, ce qui s'est passé par étapes. Si je refais le film des
Donc,
débats...
Ce sont les entreprises qui payent.
Non, je vais y revenir. Si on refait le film par étapes. Nous, on avait un projet qu'on assumait. On disait, voilà, on va... faire quelques ajustements sur le coût du travail, un peu à la hausse, c'est vrai, c'était le projet initial, tout petit peu, mais on va baisser l'impôt, la CVAE, qui est un impôt débile, parce qu'on pense que c'est un impôt qui pèse sur les entreprises.
Bon.
Puis après, il y a eu beaucoup de débats, on a parlé de la taxe Zuckmann, le RN et LFI ont voté 34 milliards d'impôts sur les entreprises, et donc c'est parti complètement, honnêtement, dans un endroit où, là, pour le coup, ça aurait été extrêmement dangereux, et comme vous savez, le RN avec les entreprises, il leur ment beaucoup. Sur ce que Bardella raconte à la télé.
Mais là, vous parlez du RN. Moi,
je vais y venir.
Et des renoncements.
Je vais y venir. Le RN a passé son temps à mentir, à venir faire sur les plateaux, dire je vous soutiens, et dans l'hémicycle, voter le contraire. Et donc, nous, à un moment donné, quand on était devant ce bazar avec le Premier ministre, on s'est dit, voilà, nous, on n'est pas monsieur et madame parfait. On n'a pas raison tout seul. Mais entre notre projet initial, qui, à mon avis, était un bon projet, Et les débats tels qu'ils tournent, on va faire quelque chose de très simple, et les Français, je pense, peuvent comprendre. On va garder ce qu'on connaît. On va choisir la stabilité. Bilan. Pas de changement d'impôt pour les ménages. Personne dans le pays ne va voir son impôt sur le revenu changer.
Vous avez quand même taxé les plans épargne retraite davantage. La CSG progresse. Ça, ce sont les ménages qui mettent leur argent pour essayer d'avoir une meilleure retraite.
Si je parle... Non, mais que y ait... Il y a eu des... Pourquoi on a fait ça ? Pour payer le financement de la dépendance et de l'autonomie, pour payer les EHPAD. Que le plan épargne retraite, quand on épargne pour sa retraite, ça finance un petit peu plus. Ensuite, ce qui va permettre aux personnes âgées à la retraite de vivre dans des bonnes conditions, c'est un choix qui a été fait, on l'assume.
Oui, une fois de plus.
On l'assume.
Toujours pour les retraités
non,
et peu pour les salariés.
Non, mais vous me posez beaucoup de questions.
Pardon.
Je vous dis juste, à un moment donné, il y avait des idées.
Il n'y a pas de prélèvement très dans... pour les ménages, voilà.
Honnêtement, l'impôt sur le revenu ne bouge pas. Le crédit d'impôt au service à la personne, il ne bouge pas. Les soutiens aux familles par le quotient familial, il ne bouge pas. Pour les TPE, PME, rien ne change. C'est le choix qu'on a fait aussi. Il n'y a pas de hausse des charges.
Heureusement.
Pas de hausse de charges. Il n'y a pas de baisse d'impôts aussi, mais il n'y a rien qui bouge, ni à la hausse, ni à la baisse. Pour les entreprises de taille intermédiaire,
non,
j'essaie juste de dire qu'il y a des fake news partout, là.
Il n'y a pas de fake news, mais tout va bien.
Mais vous n'avez pas répondu encore sur les 300 entreprises.
J'y viens.
Madame la ministre, je suis désolé, je vous coupe. Je ne peux pas supporter ce que vous avez dit. Vous dites qu'on a fait un budget où on veut que rien ne bouge. Mais ça, on le fait quand tout va bien.
Non, c'est l'inverse.
Mais non, tout va mal.
Aujourd'hui, dans la
tout va mal, il fallait avoir du courage dans le budget. Il fallait avoir du courage, il fallait réformer, il fallait changer les choses. Quand tout va mal, on change. C'est-à-dire, si vous avez une bagnole qui avance plus, on change.
Mais
et là, ça ne marche plus. Vous n'avez pas conscience de l'état du pays. Vous n'avez pas conscience qu'on va dans le trou. On va crever. Les Français n'en peuvent plus. Si vous rajoutez un euro d'impôt, les Français seront dans la rue. Vous n'avez pas conscience. Est-ce que vous avez quand même conscience que vous avez fait des choix suicidaires pour le pays?
Non.
Est-ce que vous faites pas confiance dans les Français? Au lieu de jouer sur la consommation, au lieu de donner du pouvoir d'achat, au lieu de lâcher du gras aux entreprises plutôt que les taxer, ayez confiance aux Français. Lâchez-nous du lest. Et vous allez voir que les Français, la dette, ils vont la rembourser. Faites un grand emprunt d'État plutôt que filer 70 milliards à des retraités en Floride ou à des émirs, je sais pas où. Faites un grand emprunt d'État et remboursez-le aux Français avec des taux intéressants. Jouez la carte nationale.
Alors, moi, je joue.
Arrêtez de ne pas croire dans les Français. Arrêtez de nous faire des budgets qui nous prennent à la gorge, où la seule chose que vous allez faire, c'est créer des taxes sur des taxes, des taxes. Mais vous avez créé l'impôt, le super impôt, le hyper impôt. C'est quoi l'étape d'après?
Mais, j'entends tout ça,
Mais c'est une réalité, c'est la réalité du pays, madame la ministre.
J'entends.
Et je vous engueule, je suis désolé, parce que c'est pas vous en particulier. Je veux dire, je suis comme à Air France quand j'engueule l'hôtesse parce que l'avion est en retard. Mais là, l'avion, il est pas en retard, il va se cracher.
Je suis pas hôtesse et l'avion, c'est l'avion des Français.
S'il vous plaît.
C'est juste pour vous dire. À un moment, il y avait le choix entre dire. Nous, on avait un projet initial. Manifestement, il n'y a pas de majorité. Les oppositions, les extrêmes, ils ont saboté le texte. Ils ont voté toutes sortes de choses.
Opposition, c'est normal.
Le choix du Premier ministre. On ne change pas les impôts des ménages et on assume.
Les entreprises, les 300 entreprises.
On change pas.
Baisser le coût du travail, madame la ministre.
On change
donner
pas.
Donner du pouvoir d'achat aux
dans
Français.
Un monde où
donner
personne
leur du bonheur dans leur vie.
Mais personne n'est d'accord sur rien.
Mais c'est pas qu'on est. Mais c'est débat, ça. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir consommer, vivre de leur travail, donner-leur, relancer l'économie, essayer de faire en sorte qu'on paye des impôts en consommant plutôt qu'en travaillant. Et vous verrez, le pays va bien aller. Les Français, ils ont du talent, ils ont beaucoup de talent. Il faut croire dans les Français, il faut croire en nous. Les problèmes du pays, on peut les régler. Mais il faut croire en nous, madame.
Ne croyez pas
que dans la taxe, c'est l'impôt.
Non, mais moi, je crois à la France. Je crois qu'à un moment donné, quand vous avez des propositions qui vont dans tous les sens, à un moment avec le Premier ministre, vous savez, nous, à nouveau...
Vous avez été rationnel dans
un
débat irrationnel.
On a été rationnel. Et on a dit, voilà, vous savez quoi? Vu ce qui se passe, vu toutes les idées, honnêtement, fiscales, délirantes.
Là-dessus, je vous suis.
Et que les extrêmes ont voté ensemble, joyeusement. Vous voyez, Insoumis et Rassemblement National,
on se donne la main. Je suis d'accord avec vous là-dessus.
On a dit stop. On siffle la fin de la récré. On va faire un truc, c'est qu'on va garder ce qu'on a en 2025. TPE, PME, rien ne change, pas d'hausse d'impôts, pas d'hausse de charges. Ménage, rien ne change. Les mêmes niches fiscales.
Les grandes entreprises, super impôt, qu'est-ce que vous faites?
Attendez,
augmentation des prix et tous les salariés qui sont intéressés au résultat, ils vont voir leur prime baisser.
C'est l'impôt. Et on a dit en 2026, c'était pas notre projet initial, vous le savez. C'était dire, voilà, on va mettre le même barème d'impôt en 2026 qu'en 2025,
oui,
et on va sortir
un
les entreprises de taille intermédiaire, parce que ces entreprises-là, c'est le cœur de l'industrie, donc elles paieront moins d'impôts.
Les 300 entreprises en question, c'est 50% des exportations, c'est 25% des salariés. Ça aura des répercussions. D'ailleurs, c'est ce que dit le patron du MEDEF. Il dit, vous savez très bien que si on continue à alourdir la fiscalité des entreprises, ça se paye un jour et l'autre,
sur
la croissance, sur l'emploi.
Cette surtaxe, je vous le dis, c'est pas mon projet.
Mais vous le validez.
Elle a un effet. C'est qu'elle permet aux grands groupes de payer 25% de taux d'impôt effectif, en vrai. Vous savez quoi, 25%? C'est le taux des PME.
Oui.
C'est le taux des TPE.
Oui.
Parce que ça permet d'avoir, du coup, un impôt qui est à 25% voilà. pour tout le monde.
Plus que nos voisins.
Parce que les grands groupes, eh ben, effectivement, ils ont, en général, plein de mécanismes qui leur permettent de baisser leur impôt. Qu'est-ce que je voudrais vous dire aujourd'hui? Le sujet, c'est, d'abord, un, arrêtons les fake news, arrêtons de faire peur aux Français, arrêtons de faire peur à ceux qui nous entendent. Il n'y a pas de hausse de charges, il n'y a pas de hausse d'impôts pour 99,9% des Français. Deuxième chose que je dois vous dire.
Non, et sachant ça, qu'on est quand même le pays le plus fiscalisé d'Europe. Hein.
Deuxième chose, à la fin, les impôts de ce budget, tout compris, le budget Sécu, le budget de l'État, c'est moins d'impôts par rapport à la richesse qu'on produit qu'en 2019. Oh. C'est moins d'impôts par rapport à 2019. Ça, c'est important. Parce qu'on a entendu toutes sortes de choses. Effectivement, le RN et LFI, ils avaient toutes sortes de projets qui n'étaient pas ça. Nous, on a dit avec le Premier ministre à un moment donné, on va regarder ce qui se passait avant la crise du Covid, avant la crise de l'Ukraine, avant la crise d'inflation qui a mis, on sait, le déficit dans le rouge. Comment ça marchait la France? Bon, ça marchait peut-être pas aussi bien qu'on aurait voulu, mais ça marchait.
Sauf qu'à l'époque, ça marchait. Comment vous expliquez baissière des impôts là maintenant, c'est plus le cas.
Bah, aujourd'hui, on a commencé.
Comment vous expliquez qu'il y a plus d'entreprises licornes créées par des Français aux États-Unis qu'en France?
Oui, bah là, je pense qu'ils sont en train de revenir. Vous voyez bien, Yann Lequin.
C'est la réalité.
Yann Lequin, c'est le Français qui a inventé l'intelligence artificielle. Il était chez Facebook. Qu'est-ce qu'il fait là? Il rentre à Paris. Moi, je suis fier pour mon pays.
Mais moi aussi.
Et donc, qu'est-ce que je dois vous dire? Mais en un mot. Au fond, ce qu'on a fait, c'est de se dire, soit on a tous raison tout seul, chacun fait 10% des voix, l'Assemblée est là, toute en petit bout, personne n'est d'accord avec personne, et à la fin, c'est quoi? On se fera dégager.
Alors,
les politiques,
Joël Dagosséry,
on se fera dégager, et on l'aura mérité.
Mais le but, c'est pas de se dégager.
En 2025, monsieur Truchot, j'étais venu vous voir, je pense, en début d'année 2025. On a eu le même débat. Vous m'avez dit, oh, le budget Barnier-Bayrou, c'est horrible, ça va tout casser, personne ne bougera, regardez, le pays va dans le mur. Bon, on a eu une année 2005, elle est terminée, on peut en parler.
Elle n'est pas terrible.
Il n'y a jamais eu autant de dépôts de bilan, plus que pendant le Covid.
Oui,
le
chômage repart à la hausse.
On peut regarder, c'est beaucoup d'auto-entrepreneurs qui se créent et font faillite, c'est vrai. Mais la croissance, elle a fait 1%.
Oui, mais c'est rien.
C'est pas assez.
C'est pas assez, on sait
c'est
bien.
C'est pas assez. Mais moi,
les
je regarde un
Espagnols
truc.
Les Espagnols font plus de deux.
Oui, il y a l'Espagne. Alors, y a L'Allemagne, elle est en récession.
Ouais.
La Belgique, elle est moins. L'Angleterre, elle est moins. Ce que je dis juste, c'est que c'est pas moi qui crée la croissance. C'est les chefs d'entreprise, c'est les Français. Effectivement, il faut leur faire confiance. Il faut qu'on donne. Et le deuxième choix qu'on a fait. C'est un, il faut qu'on arrête de se taper nous-mêmes. Parce que la confiance, c'est aussi ce qu'on dit là sur les plateaux, c'est aussi ce qu'on dit à la télé, c'est aussi ce qu'on dit à la radio. Moi, je vois un truc dans les enquêtes.
On ne peut pas
mentir aux Français non plus. On peut
pas.
Vous demandez aux Français comment ça va vous dans la vie, quand vous soyez une mère de famille, moi j'ai trois enfants, quand vous êtes un patron, comment ça va vous dans la vie? Bah, en fait, ce que vous voyez dans les enquêtes, les gens dans leur vie personnelle, dans leur petite entreprise, dans leur vie de salarié, ils vont bien.
En France? Alors,
en France.
Ah bon, on vit pas dans le même pays alors.
Non, à titre personnel, les gens vont bien. Et tant mieux. Et après, on leur dit comment ça va le pays? Ah, c'est horrible.
S'ils vous disent ça va, ils n'ont pas dû les se faire soigner, ils n'ont pas eu de problème avec la police. Ils n'ont pas eu besoin de la police.
C'est incroyable parce que moi, je fais partie des petits Français qui vont bien, selon vous. Ben, je vais bien, mais je suis obligée de contourner l'État, c'est-à-dire que je suis obligée de me dire, tiens, l'éducation nationale, ça marche pas super, super bien, je vais payer une école privée. Et puis...
Je vous arrête. L'école privée, où sont vos enfants?
Ouais.
Il y a à peu près 99% de chance.
Qu'elle est
sous contrat.
Oui, d'accord.
Les professeurs, ils ont été formés par l'État, ils ont été payés par l'État.
D'accord.
Ils ont été d'ailleurs entourés par l'État.
Les méthodes d'enseignement.
D'accord, mais parce que sinon, on dit des choses qui sont pas justes. Hein.
Le nombre d'enfants par classe, par contre, ça peut changer. Excusez-moi de le dire. J'ai fait privé et public, parce que ma fille a fait privé et public. Donc, je connais à peu près les différences. Et je crache pas sur l'école publique parce que ce sont des professeurs qui sont très engagés et qui font ce qu'ils peuvent. Mais au-delà de ça, moi, je veux savoir, parce que moi, je connais vos convictions un peu. Et je veux savoir si, est-ce que vous êtes fiers de ce budget?
Voilà, moi, je peux vous dire, en vrai, il y a un moment, j'ai cru qu'on aurait pu jeter l'éponge. De dire, au fond, vous savez, ça fait 350 heures que je suis là, il y a des débats qui sont lunaires, il y a des propositions qui sont faites qui n'ont aucun sens. Si on les mettait en œuvre, ça ruinerait le pays.
À quel moment vous avez pensé ça?
À deux moments. Au moment où le Rassemblement National, quand il vote la taxe à 26 milliards d'euros d'impôts sur les multinationales, 26 milliards. Vous voyez, vous me parlez d'un impôt, c'est 7,5. C'est beaucoup. Mais quand vous votez comme ça d'un seul homme 26 milliards d'impôts, qui sont fiers de le faire, et qu'ils vous disent non, mais nous on protège les entreprises, et que Jordan Bardella il fait le tour des télés en disant moi j'aime les entreprises. L'autre moment, c'est quand ils ont supprimé un dispositif qui s'appelle le Madelin, qui aide les PME à se financer. Et vous voyez, moi je suis allé trois fois, j'ai pris le micro, j'ai dit mais il faut garder ce dispositif, c'est un bon dispositif. J'ai mis toutes mes convictions. Et là je vois le Rassemblement National qui dit non, on supprime. Là, je me suis dit, en fait, à un moment donné, vous voyez, la mauvaise foi.
Le RN, c'est double jeu, quoi.
Oui, mais
en permanence.
En fait, moi, vous voyez, à la fin. Quand on s'engage un peu pour le pays. Non, mais quand on s'engage pour le pays, on le fait avec sincérité.
Alors pourquoi vous avez décidé finalement d'en rester ?
Excuse-moi, Olivier, parce que moi, je veux savoir si ma ministre, parce que vous êtes la ministre de tous les Français, est-ce que quand vous regardez ce budget, vous vous dites, ouais, ça reflète mes convictions.
Alors, je vais vous dire des choses dont je suis fier dans le budget. Puis il y a des choses, je me dis, c'était le prix du compromis. Et le compromis, on l'a pas fait qu'avec le PS, on l'a fait avec tous les partis. Vous allez voir dans les heures qui viennent. Le Premier ministre va annoncer les arbitrages qui ont été faits, les choix qui ont été faits pour le budget des collectivités locales, pour les mairies, pour les départements. Je peux vous dire qu'on a vraiment répondu strictement aux demandes des Républicains. Et donc moi, à la fin, je me dis, bon, il y a des choses qu'on demandait le Parti Socialiste, des choses qu'on demandait mon parti, il y a des choses...
Mais
je vais vous dire de quoi je suis fier. Je suis fier de trois choses. D'abord, je suis fier que ce budget, contrairement au budget de la Sécurité sociale, qui était effectivement un budget de protection pour les retraités, le budget de l'État dont on parle, c'est un budget pour les travailleurs, pour les actifs, pour les gens qui ont mon âge, les gens qui bossent, les gens qui sont au cœur de leur vie, vous voyez, ils ont 40 ans, ils ont des enfants, ils ont des parents. Bon,
l'abattement fiscal de 10%, vous y avez touché pour les...
Non, il n'a pas été touché parce qu'il est tombé. D'accord. Il est tombé dans la nuit 31 décembre. Ah. La nuit 31 décembre, j'avais plus le droit de réformer l'abattement sur les retraités. Okay. Vous savez que je l'ai porté alors que c'était pas populaire, et vous savez que j'ai toujours des convictions sur ce sujet. Mais d'abord, je suis fier que ce budget, il accompagne les travailleurs. Moi, je suis fier qu'on augmente la prime d'activité.
Et comment vous pouvez la réforme des retraites, la seule chose que vous aviez touchée et qui allait dans le bon sens, parce que c'était logique en fait de repousser l'âge compte tenu de la démographie, compte tenu des dépenses, vous êtes assis dessus, excusez-moi de dire
ça,
et vous me dites que ça, vous pensez aux travailleurs, alors que c'est exactement
la réforme de la prime d'activité
qui plombe le salaire.
Je vais vous dire
la prime d'activité, pourquoi c'est bien?
En un mot, le système d'aujourd'hui, il est complètement couillon, je vais le dire avec mes mots. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites 3 heures supplémentaires de plus, que votre patron, il vous donne 45 euros du coup net, c'est 3 heures à payer à 15 euros par mois. La prime d'activité aujourd'hui, elle baisse de 30 euros. Donc vous avez travaillé 3 heures de plus, payé en fait net, vous voyez, 5 euros net de l'heure.
C'est une connerie absolue.
Et donc qu'est-ce qu'on a dit avec le Premier ministre ? Ça coûte cher, c'est vrai. Mais moi j'ai dit au Premier ministre, si on veut pour le coup soutenir les travailleurs, quand on a juste au-dessus du SMIC, entre 1 et 1,2 SMIC, cette espèce de prime d'activité, elle peut pas baisser quand vous travaillez plus.
Bien
parce
sûr.
Que sinon, vous découragez le travail. Les gens, ils s'en sont même à dire, m'augmentez pas. Parce que sinon, je perds des aides.
Vous savez que c'est bizarre de donner une prime à des gens qui bossent.
Mais oui,
non,
baisser
mais
les charges. On devrait
s'en charger.
Mais évidemment.
C'est la France qui fait ça, une prime
d'activité.
Dites aux gens, venez créer des emplois chez nous, vous allez vous régaler, vous allez vous gaver, c'est ça. Et on va payer des impôts indirects. Misez sur l'impôt indirect.
La grande réforme à faire en 2027, ce sera de baisser les charges. Et j'ai toujours dit, je le porte depuis des mois. Là, honnêtement, il n'y a pas de majorité pour le faire. Mais cette réforme de la prime d'activité, je suis fier. Deuxième chose dont je suis fier, c'est que dans ce budget, on continue de mettre de l'argent pour la recherche. C'est presque plus de 700 millions d'euros entre 2025 et 2026 pour les centres de recherche, pour l'innovation, pour les start-up.
Et la troisième chose
dont je suis fier, c'est le logement. On a créé, et vous en parlerez sûrement avec mon collègue ministre.
Impôts pour les propriétaires.
Non, on a créé un système qui va enfin pouvoir redonner de l'incitation à investir dans le logement. Moi, quand on voit la natalité, quand on voit la démographie, pourquoi les gens, ils n'ont pas d'enfants? Mais parce qu'ils regardent là où ils habitent, ils regardent que changer de logement, c'est hyper compliqué.
Et alors, pourquoi,
et donc, ça résout
pourquoi
pas
vous
tout.
Allez m'inciter à aller
voir le logement, le relance, le travail, on soutient. Et vous voyez, la recherche, on avance. Ça, je suis fier. Après, à un moment donné, il faut faire un compromis. S'il n'y avait pas de budget, moi, je vais vous raconter, hein. Vous voyez, le président avec ses lunettes? Vous voyez, le discours qu'il fait de souveraineté, de dire on doit se défendre, nous, les Européens? Si on n'a pas de budget des armées, qu'est-ce qu'on fait? On dit, voyez, on est fort que dans nos mots.
Nucléaire, ça suffit pas. Je croyais que ça devait dissuader.
Alors, mais moi, s'il n'y a pas de plus. Mais Mourad, s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget pour réformer et innover et maintenir la dissuasion nucléaire.
Alors.
Là, le budget, il va exister. Les armées vont avoir les milliards dont ils ont besoin pour nous protéger. Ouais. C'est quand même quelque chose qui est quand même nécessaire
à la vie des Français. Parce que la guerre, c'est reste avec nous, s'il vous plaît. Dans un instant, suite de la discussion avec Madame Amélie de Montchalin et question d'Emmanuel Deville.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
En direct sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Madame la Ministre des Comptes Publics, c'est Amélie de Montchalin qui est des nôtres. Les questions déjà de Joël Dagosséry, de Mourad Boudjelal, mais on n'a pas encore entendu Emmanuel Deville, chef d'entreprise. Emmanuel.
Oui, alors vous gagnez à être connu, parce que vous avez, de par les médias, vous donnez la perception d'un petit air condescendant, mais qu'on ne retrouve pas là, dans un contact direct. Alors, il faut dire que vous avez fait de très belles études, vous êtes très diplômé. Vous êtes donné beaucoup de mal, vous êtes très actif, vous êtes née Amélie Baumier. Les Français ne le savent peut-être pas, on aurait pu vous surnommer Amélie Boum Boum.
Ou Boum Boum.
Et maintenant, vous êtes bien connue.
C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite.
Ah bon, c'est comme ça qu'on vous appelait.
Boum Boum, ouais.
Ah oui, vous êtes bien connue par le patronyme de votre mari, dont le prénom est Guillaume, je crois.
C'est ça, il sera
Guillaume de Montchalin. Alors, c'est un nom, Amélie de Montchalin, dans les consonances. Un peu comme Métis d'Ibissa de Julien Clerc qui prête à la contrepétrie.
Oula. Alors,
Amélie de Montchalin, les mots malins montent à la chaîne. Amélie de Montchalin, la mélodie monte à Chalon. Et puis, de manière plus subtile, Amélie de Montchalin, la main chaude aime les mots câlins. Passez vos études et une courte période professionnelle, mais quand même assez intense, notamment de lobbyiste. Pendant 7 à 8 ans, vous avez
travaillé. J'étais pas lobbyiste, j'étais économiste.
Oui, enfin.
J'étais économiste à la BNP et puis après chez AXA.
Des affaires publiques chez
AXA. La prospective, ouais.
Oui. Bon, vos dénégations vous honorent, mais vous avez ensuite été bombardé, selon la fameuse maxime macroniste, au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Vous avez été bombardé d'abord député et ensuite ministre.
Enfin, j'ai été élu.
Elle a élu, oui.
Faut te rappeler quand même comment ça marche, la démocratie.
Bombardé dans les nominations, puisque c'est un parti qui est né de rien et qui a pris un peu tous les gens qui se présentaient et qui ont été élus.
Moi, je suis une députée Internet, comme disait François Fillon. J'ai envoyé mon CV et puis j'ai dit d'où je venais. Et
un beau CV, déjà, parce que vous avez fait Harvard, Saclay, ce qu'il n'a pas dit.
Du plateau de Saclay et voilà.
Comme je n'ai pas envie de vous voler dans les plumes, je ferai simplement observer le caractère mouvementé de vos fonctions. Qui sont d'une grande instabilité et d'une réelle précarité, puisque vous êtes une sorte de MPF, c'est-à-dire un ministre sans portefeuille fixe. Vous avez été secrétaire d'État à l'Europe 15 mois, ministre de la fonction publique 22 mois, ministre de la transition écologique 45 jours, représentant de la France à l'OCDE, ça c'est quand vous aviez plus de boulot pendant 2 ans.
Ah, c'était un vrai boulot, et c'était là d'ailleurs qu'on combattait Trump, déjà.
Ouais.
Déjà.
Alors c'est une erreur. Ensuite, depuis Noël 2024, soit 13 mois, vous êtes donc ministre de l'Action et des Comptes Publics, ce qui est un poste vraiment central. Mais c'est un peu comme si dans une entreprise, moi j'ai passé ma vie à diriger une entreprise, on a dirigé 6, 4 en tant qu'actionnaire majoritaire. C'est comme si vous aviez un collègue que vous croisiez, alors vous lui dites, alors dis donc Robert, t'es toujours à la maintenance? Ah ben non, maintenant je suis au commercial et puis je passe à la compta le mois prochain. Donc vous changez complètement de domaine d'activité, donc vous êtes nécessairement, au-delà de votre brio, de vos compétences et de votre assiduité, de votre sérieux, de votre volonté de bien faire, vous êtes forcément dans la main de vos administrations. C'est un peu comme si on demandait à une monitrice d'auto-école de devenir pilote de Boeing 747. Vous pouvez pas passer comme ça d'un poste à l'autre et dominer les sujets, même en travaillant 18 heures sur 24.
Attends, alors, juste, vous êtes aux mains de l'administration,
alors,
c'est vrai ou pas?
Deux choses, en fait, il y a un fil rouge qui se voit peut-être pas. Moi, je suis économiste de formation. Mon premier métier, c'était de suivre la crise, vous voyez, des pays en grand déficit et en grande dette. Mon premier métier, j'avais 25 ans.
En France, vous êtes bien là.
C'est la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Donc, je peux vous dire que mon premier métier, c'était de voir ce qui se passe quand on réduit pas son déficit. Bon, oui. Donc vous voyez, je suis arrivé à un endroit où j'essaye d'éviter ça. Et le deuxième fil rouge, ce que vous voyez pas, c'est la négociation. Quand j'étais aux affaires européennes, je faisais la négociation avec les pays européens. Quand j'étais à la fonction publique, je faisais la négociation avec les syndicats de la fonction publique.
Maintenant, vous négociez avec.
Quand j'étais à l'OCDE, je faisais des négociations avec des pays qui étaient membres de cette organisation qui représente les pays développés.
Et aujourd'hui, je fais quoi? C'est impoli, mais qui ne sert strictement à rien et qui nous coûte un bras comme tout.
L'OCDE, je pense pas. Mais bon, pour
aujourd'hui,
je fais la négociation avec qui?
Mais
avec une assemblée qui n'a pas de majorité.
Avec le PS.
Et au fond, ce que je peux retenir de toutes ces années, c'est que, bon, moi j'ai une formation, donc c'est vrai que j'aime bien les chiffres, pas parce que j'aime les chiffres, mais qu'à un moment donné, ils disent une vérité. Oui. Et la deuxième chose, c'est que je peux vous dire,
parce que là, il faut accélérer,
c'est que la négociation, c'est-à-dire, on écoute l'autre, mais à la fin, on avance. Parce que c'est comme dans la vraie vie, vous savez, j'ai des enfants collégiens. Vous avez parlé de mon mari, moi je peux vous dire, on a 3 beaux enfants. Magnifique.
Ça, je n'en doute
sympathique.
Pas.
Alors, mais ils sont collégiens, donc ils sont un peu ados.
Comme le temps est compté, vous
s'ils ont raison tout seuls à la fin, vous savez, ça n'avance pas. On s'énerve, non, mais ça ne va nulle part. Bah, c'est un peu comme la négociation. À un moment donné, il fallait que ça avance. Et donc ce budget, bah oui.
Ça avance également du côté d'Emmanuel. T'as une question?
Alors, ma question c'est... dans le droit fil du propos précédent, c'est comment vous avez fait pour changer, pour trouver toujours un poste de ministre?
Voilà,
vous êtes montré très sympathique. Comment vous avez fait pour que les gouvernements vous renomment à chaque fois?
C'est pas une question de poste. Moi, j'ai toujours fait les choses à fond. Il y a une chose que j'aime bien dans la vie, c'est l'efficacité. Et je peux vous dire que je suis pas la main de mes administrations du tout. Je passe ma vie, d'ailleurs, à m'assurer que ce qu'elles font, ce qu'elles proposent, ça veut dire quelque chose dans la vraie vie. Alors, Je vous donne un exemple sur les économies. Vous m'avez demandé où est-ce qu'on fait des économies dans ce budget.
Je voulais revenir un peu au budget, c'est quand même pour ça que vous êtes là, parce qu'on a beaucoup parlé de fiscalité, etc. Mais où sont les économies? On les voit pas vraiment, alors que nous avons un déficit record, nous sommes très endettés, et que la priorité, c'est pas moi qui le dis, ça serait justement de lutter contre tout ça. C'est ce que disait François Bayrou, Premier ministre, qui malheureusement n'a pas pu rester très longtemps.
Je peux vous parler des grands chiffres, et puis je pourrais parler des petites choses. Mais des petites choses qui sont importantes. J'étais venu ici, vous m'aviez invité. Vous avez dit, vous savez, les avantages des anciens premiers ministres, on va mettre fin à ça. En tout cas, moi, je veux que ça soit résolu, c'est pas normal. J'avais dit, il fallait qu'ils prennent le métro. Bon, depuis, vous voyez, un engagement, Premier ministre Lecornu, c'est fait.
D'accord.
Autre exemple, on a parlé des agences, des opérateurs, des agences d'État.
Ouais. Vous avez dit. Ça nous coûte. Hein.
Alors, c'est pas que les agences coûtent 80 milliards, c'est qu'elles font des choses qui coûtent 80 milliards.
50 000 salariés.
Ma prime rénove, bon bah c'est porté par une agence, c'est quand même de l'argent qui va ensuite pour les Français. Je vous donne un exemple, une université, c'est une agence. Mais je vous avais dit, on va fusionner, on va organiser, on va en supprimer. Bon, là aujourd'hui, donc vous allez voir dans le budget, on a plein de fusions.
On a toujours pas les noms, c'est parce qu'à chaque fois on l'annonce.
Je vais vous donner un exemple. Moi dans mon ministère, voyez, moi je fais des choses qui sont moquées. On avait des instituts régionaux de formation des fonctionnaires. Je suis aussi ministre de la fonction publique. Bon, il y avait 5 ou 6 écoles différentes à différents endroits du territoire, chacune avec un conseil d'administration, chacune avec un directeur, chacune avec un directeur de la communication. Et ben on a fait un institut national, on a fusionné. Oui, il y avait 6, ça en fait un. Et donc on continue ces économies-là. Mais les économies, c'est quoi? C'est que dans ce budget, en 2026, et ben il y aura moins de dépenses dans le PIB qu'en 2025. Oui, et c'est les grands chiffres. Mais les dépenses,
5% déficit, on sait très bien que ça sera plus.
C'est les achats publics. On va arrêter d'acheter cher. Oui. On va rester d'acheter cher. On fait 1 milliard d'euros d'économie par les achats.
Pardon, madame de Montchalin, vous savez très bien, et je ne vais pas insulter votre intelligence, que les dépenses les plus importantes ne sont pas là. Ce sont les dépenses sociales et notamment les retraites. Et là, c'est plus compliqué. Parce que quand on veut s'attaquer aux dépenses sociales, il faut avoir du courage. Peut-être une majorité que vous n'avez pas. Par exemple, les cures thermales. On voulait dérembourser. On voulait arrêter le remboursement des cures thermales. Bah finalement, on n'y est pas arrivé. Transport sanitaire,
on a réformé. On a réformé.
Finalement, vous avez reculé.
Les
médecins, je prends un autre exemple. Les médecins qui étaient en grève. Les médecins, on voulait un peu plus contrôler quand même leurs arrêts de travail. Finalement, on a reculé. La ministre de la Santé a reculé sur ce dossier pour calmer la grogne. À chaque fois sur des sujets qui seront des sujets durs, hein, parce que c'est les dépenses sociales qu'il faut réduire dans ce pays, vous reculez.
Alors, sur chacun des points que vous avez cités, il y a ce que vous dites et puis il y a ce qu'on a vraiment fait. Je vous parle des taxis. Vous savez, on a une très grande grève des taxis parce qu'on a changé les tarifs pour que la sécurité sociale paye les taxis quand ils transportent des personnes malades, pour qu'on fasse quelque chose de plus juste. Je suis sûr qu'il y a des taxis qui nous écoutent. Je peux vous dire que pour eux, les tarifs, ils ont changé. Et ce que vous dites n'est pas... Du coup, aussi, je suis désolé, ce n'était pas vrai.
Vous n'avez pas été jusqu'au bout.
Ah, on a fait une assez grande réforme et je pense que ceux qui nous écoutent, ils pensent que c'est une vraie réforme. Vous avez parlé des médecins. Dans le texte, il y a écrit qu'on ne peut pas prescrire maintenant des arrêts maladie, sauf exception qui doivent être bien expliquées, de plus d'un mois. Parce que si on met les gens en arrêt maladie de plus d'un mois et qu'on ne les revoit pas, vous savez quoi, ils ne vont pas soigner tout seuls.
Donc, c'est du bon
après,
sens.
Après, ce que vous dites. Mais ce que vous
et
dites,
les cures thermales, en revanche, elles sont toujours remboursées.
Les cures thermales, moi, je vous dis la vérité. On voulait, effectivement, dire on rembourse un peu moins. Pas qu'on met pas à zéro, mais on rembourse un peu moins. Tous les territoires, tous les chefs d'entreprise, tous les hôteliers, tous les patrons de PME de ces territoires, ils sont tous arrivés en disant mais nous c'est des emplois, c'est notre économie, comment on fait.
Bonne raison pour aller bouger.
Mais Olivier Truchot, ce que vous dites, et ça c'est le cœur, je pense, de notre sujet, ça s'appelle la démocratie. À un moment donné,
ça s'appelle du corporatisme. Chaque corporatiste défend sa boutique. C'est pas
moi,
la démocratie, la démocratie.
Je me suis fait une raison. Je dis à un moment donné, j'aurais pu jeter l'éponge. Je me dis qu'en fait, ça marche pas, je m'en vais. À un moment donné, le Parlement qui est là. C'est celui que les Français ont voulu. C'est celui que les Français ont choisi.
Une question grave, madame la ministre.
Après, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, si c'est compliqué, s'il n'y a pas de majorité.
Donc ça veut dire que la classe politique, dans son ensemble, est incapable de s'attaquer au dur de la dépense en France.
Ce que ça veut dire, exactement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vous parlent d'économie, qui viennent faire des heures ici, qui veulent tout couper. Moi, je vois les députés de ces mêmes partis, parfois les mêmes qui viennent vous parler. Je les regarde dans l'hémicycle, je propose une économie, et ils votent contre.
Et pourquoi les Suédois ont réussi? Je cite les Suédois parce que c'est finalement un modèle assez proche du nôtre. Pourquoi ils ont réussi à réformer leur pays, leur modèle social?
Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une majorité, il faut qu'il y ait des coalitions, il faut qu'il y ait des compromis.
Du courage.
Oui. Et le courage, je pense que le gouvernement, vous savez, on a proposé beaucoup d'économies. Il en reste beaucoup. Il en reste beaucoup. Vous allez voir,
grave,
dans les prochaines semaines, je suis sûr que si vous faites des émissions, vous allez voir plein de gens qui vont dire ah, quand même, il y a des économies, on n'est pas content.
Oui, madame, j'ai aucun doute. Est-ce que la France aura toujours prêteur?
C'est bien mon but. Je vous ai dit que c'était mon premier métier. C'était d'avoir suivi ce qui se passait dans les pays qui, justement, trouvaient plus de financeurs et avait dû couper les retraites de 25%, baisser les fonctionnaires de 15% et faire des choses très brutales. Nous, notre sujet là,
de toute façon, on l'évitera
qu'est-ce qu'ils
pas. On ne l'évitera pas.
Bah, moi, je pense qu'on peut l'éviter.
Est-ce que le président
Et moi, je pense que honnêtement, ce qu'on fait là, c'est de dire, on voulait un budget.
On fait durer le système.
On a un budget. On réduit le déficit. On réduit le déficit. L'année dernière, quand j'avais dit que le déficit sera à 5,4%, tout le monde rigolait. Tout le monde disait, non, mais vous y arriverez jamais. Les promesses, on n'en peut plus. On a dit 5,4, on a fait 5,4. Là, on dit 5, on fait 5. Évidemment que 5, c'est beaucoup trop haut. Je ne vais pas vous dire que c'est ce qu'on devrait faire. On devrait être à moins de 3%.
En plus, on sait.
Non, ce ne sera pas plus que 5.
Les prévisions ne sont jamais tenues.
Eh bien, si, justement, en 2025.
C'est vous qui calculez, donc.
Non. Alors, ça, non. On ne peut pas dire que c'est du mensonge. C'est vérifié. En 2025, ce qui est très important, ce que vous dites, les gens ne croient plus à nos chiffres. Ils ne croient plus à nos engagements.
Ah oui.
On avait dit 5,4. On a fait 5,4. Pas tout seul, hein, mais parce qu'on a mis tout le monde autour de la table.
5,4, c'est énorme.
C'est énorme.
On doit faire 3.
Et bien sûr, mais 5,8, 5,4, 5. Moi, j'avais proposé avec le Premier ministre Lecornu 4,7 pour essayer de se rapprocher du moment. Ce n'est pas des chiffres, tout ça. C'est à quel moment on perd notre puissance. Ah oui. Parce que Emmanuel Levy l'a dit très bien. Le jour où vous dépendez de vos prêteurs, c'est comme quand vous êtes un particulier. Le jour où vous êtes surendetté et que c'est la banque qui décide pour vous ce que vous avez le droit d'acheter, de vendre, qui vend votre voiture à votre place, quand l'huissier arrive. Moi, je veux pas ça pour mon pays.
Et pour vos enfants et nos enfants.
Et je veux pas ça pour mes enfants. Et je veux pas ça pour l'avenir de la France. Et je veux qu'on ait une bonne réputation. Et je veux quand le président, il défend notre souveraineté, on lui rit pas à la figure parce qu'on dit, attends, t'avais pas de budget.
Il a bien défendu le pays face à Trump, Emmanuel Macron.
Il a formidablement défendu le pays face à Trump. Le monde entier dit, les démocrates américains, les opposants à Trump, ils disent enfin quelqu'un qui ose dire les choses sur ce qu'est ce président qui utilise la menace pour masquer, vous voyez, des intérêts économiques sous des couverts politiques. Donc moi, je veux qu'on pays soit fort. Pour qu'il soit fort, il faut qu'on arrête.
Vous étiez fier du discours d'Emmanuel Macron quand vous l'avez entendu?
Oui, moi, je suis très fier d'avoir un président, et je pense que tous les Français, même s'ils sont pas d'accord avec tout ce qu'il a pu faire, on devrait être fier d'avoir un président qui dit que la souveraineté, c'est-à-dire le respect des frontières, le respect de ce qu'on est, ça ne se négocie pas. Et alors, je pense qu'on peut tous être fiers de ça.
Donald Trump, pour conclure, c'est un ami ou un ennemi, du coup?
Ah ben, c'est un adversaire économique et c'est un adversaire politique. La manière dont il traite, vous voyez bien, l'économie, les partenaires commerciaux, c'est quand même quelque chose qui doit nous interroger. Et la manière dont il traite ses alliés montre bien qu'il a un réflexe de puissance plutôt qu'un réflexe de coopération.
La bonne nouvelle, c'est que les droits de douane supplémentaires ne seront pas appliqués le 1er février.
Bah, ça veut dire aussi qu'on a eu raison de résister.
Merci,
pas plier,
madame,
pas se coucher.
Merci Madame la Ministre Amélie de Montchalin, Madame la Ministre des Comptes Publics, de passer par les GG. Il est midi moins 20 à l'instant. Donald Trump affirme que la guerre en Ukraine va être réglée même, c'est ce qu'il dit. Allez, suite et fin des GG dans un instant.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
1, 2, 3, 4. Les GG, les Grandes Gueules. Je reprends. Les GG, les Grandes Gueules avec Emmanuel Devilliers, avec Joël Dagosséry, avec Mourad Boudjela. Il nous reste 10 minutes à passer ensemble avant de donner la main à Estelle Denis pour Estelle Midi. Ce sera encore du débat et de la discussion. Alors on va s'intéresser à la ceinture de sécurité à l'arrière des véhicules. Je vous fais un petit rappel historique. La ceinture de sécurité à l'avant du véhicule, ça a été obligatoire en Mourad ?
En 1412. 73.
1973, bonne réponse d'Emmanuel Devilliers.
Il y avait 17 000 morts sur les routes à l'époque, ouais. Avec beaucoup moins de véhicules en circulation, donc à un moment donné, il fallait quand même prendre des décisions.
Et aujourd'hui, c'est une étude du constructeur Volvo, 21% des passagers à l'arrière ne s'attachent pas systématiquement.
Oui, à l'arrière d'une voiture, les Français ont du mal encore. Un Français sur 5, ce n'est pas rien, ne porte pas de ceinture de sécurité. Or, ça peut s'avérer bien sûr très dangereux en cas d'accident. Est-ce que c'est aussi une question de génération. Peut-être qu'il y a toute une génération qui est montée dans des véhicules sans ceinture de sécurité à l'arrière. Donc, il faut s'y mettre. Est-ce que vous-même, vous hésitez à le faire? Ça vous gêne? Vous dites, oh là, à l'arrière.
Non, mais ça dépend si ça sonne ou pas. Tout simplement, donc, il y a une voiture sur 5 où ça sonne à l'arrière quand on ne met pas sa ceinture, en résumé. Moi, quand ça ne sonne pas, je ne la mets pas.
Ah oui, mais pas la ceinture à l'arrière.
Non, si ça ne sonne pas, je ne la mets pas.
Bon, moi un jour je me suis mangé une amende de 90 balles.
Ah, tu les manges les amendes toi?
Ouais. Et ça m'a vacciné pour le port de ceinture. Et donc ce que je fais, je suis ce que Mourad a dit, quand ça sonne, je la mets. Et c'est vrai que des fois quand ça sonne pas, je me dis ah ouais, je suis pas obligée de la mettre. Final. Donc jamais pas, mais je la mets plus que je ne la mets pas quand même. Donc c'est vrai que des fois, t'as l'impression d'être un peu entravé dans ta liberté. Par exemple, quand je la mets, j'ai mon sac à main, je le mets, porte souvent en bandoulière. Donc quand je la mets, ça bloque l'accès à mon sac à main. Je peux pas fouiller, trouver mon rouge à lèvres, mon portable, plein de choses essentielles pour moi. donc je sais, les gens vont dire c'est un peu futile, machin. Non, mais quand même jamais plus que je ne la mets pas. Voilà.
D'accord, mais si t'as pas le rappel électronique, tu la mets pas. C'est générationnel.
En général, à l'arrière, quand je suis assis à l'arrière, c'est un taxi, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et il y a des taxis qui mangent, chez qui ça sonne, et puis d'autres chez qui ça sonne pas.
Et pour prolonger le propos de Joël, c'est beaucoup plus difficile de s'accrocher à l'arrière qu'à l'avant. C'est difficile. Et pour quelqu'un qui a de l'embonpoint, ça doit carrément être très difficile. Donc, moi, personnellement, je savais même plus que c'était obligatoire.
Mais après, tu la mets derrière la ceinture de sécurité ou pas?
Assez peu, mais il y a des taxis qui le demandent, il y a des gens qui peuvent le demander. Mais encore une fois, c'est difficile de s'accrocher. On commence par chercher l'embout qui n'est pas le bon. Enfin, on a du mal.
Mais là, on a encore une aberration sécuritaire. Je l'ai déjà dit. Si demain, je tâche pas ma ceinture et que je roule à 50 à l'heure, ça va sonner. Par contre, si demain j'ai ma ceinture attachée et que je roule à 240 à l'heure, ça sonnera pas. Peut-être qu'il faudrait aussi envisager un système où quand on est dans de très grandes vitesses, à l'instar de la ceinture, pour que ce soit dissuasif, ça sonne. Voilà, et ça me semble beaucoup plus important qu'une ceinture en fonction de la vitesse, quoi. Qu'une ceinture, voilà, et c'est une des aberrations et le côté faux cul de la voiture, c'est que on t'embête pour la ceinture, alors que des fois tu peux rouler à des vitesses très modérées. Par contre, tu peux rouler à des vitesses de fou. T'as aucune alerte, t'as rien qui te dissuade de ralentir.
Mais alors
rien.
La question de savoir, c'est si on ne met pas sa ceinture de sécurité à l'arrière, c'est de la négligence ou c'est de l'inconscience?
C'est un peu inconscient quand même.
Inconscient.
Oui, c'est de la conscience. Mais bon, c'est une habitude.
Voilà, tu peux être projeté à l'avant, notamment, bon, par exemple, moi, ma fille tout le temps. Autant moi, des fois, ma fille tout le temps. D'ailleurs, des fois, elle me le rappelle quand on a l'arrière. Donc non, c'est quand même de l'inconscience. On a toutes les études, on est tous informés. Je pense que c'est plus une sorte de paresse, une sorte de flemme, ouais, comme je dis souvent. Que vraiment des gens qui sont réfractaires au port de la ceinture à l'arrière.
Non mais Joël, quand tu mets la ceinture, quand tu mets pas ta ceinture à l'arrière, c'est surtout parce que t'es dans de courtes distances. Taxi, tu vas faire 2-3 kilomètres, t'es en ville, il va pas rouler à 200 à l'heure, tu te sens un peu en sécurité. Ouais. Je pense que si je devais faire une longue distance assis à l'arrière, ça m'est arrivé quelquefois, j'ai mis la ceinture. Il m'arrive deux fois de faire Marseille-Toulon en taxi. J'attache ma ceinture parce qu'il va prendre l'autoroute à 130, à 140 à l'heure. Je préfère être attaché que non. Mais bon, là, t'es en ville, dans Paris. Alors, surtout dans Paris, s'il y a bien un endroit où tu peux pas rouler vite, c'est bien Paris. Tu passes 90% de ton transport dans les bouchons.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait la distinction encore entre trajet long et trajet court.
Oui.
Or, si l'accident, tu peux l'avoir trajet court ou trajet long.
L'imaginaire collectif, t'as quand même l'impression que sur un trajet court avec une vitesse modérée, tu prends moins de risques que sur un trajet long. Mais
tu peux être pressé sur un trajet court aussi appuyer sur le champignon.
Tu te sens plus en sécurité quand même que sur un trajet long. Voilà, je pense.
Mais c'est chez les 18-24 ans aujourd'hui, justement. On a un écart générationnel entre les plus âgés qui mettent moins la ceinture que les 18-24 ans.
Il y a un conflit de génération parce que nous, je me mets dans les plus âgés, mais on a connu la voiture à l'arrière quand on est enfant, quand on était enfant, moi il n'y avait pas de ceinture de sécurité, on s'attachait pas. Donc c'est vrai que c'est un réflexe qu'on n'a pas. Alors que je vois mes enfants, ils montent dans une voiture, ils s'attachent, ils se posent pas la question parce que c'est une question de réflexe.
Olivier, t'as quasiment pas de sanction. Le policier le plus souvent, il surveille la ceinture à l'avant. Il pas la d'abord il y a très peu d'accès à la ceinture à l'arrière.
Ça va aller parce que les générations qui viennent, ils mettent la ceinture automatiquement. Rappelez que les premières ceintures, puisque Olivier parle de l'histoire, étaient des ceintures qui n'étaient pas en rouleur.
Non.
Oui, c'est vrai. Étaient des ceintures fixes et notamment dans la coccinelle Volkswagen, c'était avec un espèce de crochet. Ouais. On rentrait dans une barre et qu'on arrivait à enlever en tirant ensuite. Et donc le fait qu'il n'y ait pas de ceinture en rouleur, l'arrêt était très, très dangereux.
Et là aujourd'hui, t'as même les ceintures qui viennent automatiquement maintenant aujourd'hui dans les grosses, dans certaines berlines. Oui, complètement. Elles s'avancent de 30 centimètres.
T'as juste à ça.
Alors non, je viens de mettre les ceintures, je viens de les fixer avec des clous là. À l'instant.
Il a pris la bonne gamme. Mais par exemple, pour apporter un élément de diversité dans les vieilles décapotables. Alors c'est très rare. Moi-même, j'en possède pas. Mais si on est dans une vieille décapotable, le fait de mettre la ceinture, ça enlève 50% du plaisir en tant que conducteur. Parce que vous perdez la liberté.
Le côté rétro.
Vous perdez, non pas le côté rétro, vous perdez le sentiment de liberté d'être au volant de la voiture dans le paysage avec l'air, etc., sans toi. Si vous mettez une ceinture, vous perdez ce sentiment.
Oui, mais tu vois, c'est dangereux c'est quand même dangereux d'opposer liberté et sécurité.
Oui.
On peut être à la fois, on est libre quand on est en sécurité aussi.
Ah, tu recommences avec le politiquement correct.
Non, après c'est une question de peur. Moi, dans l'avion, j'attache la ceinture alors qu'on n'a pas décollé. Que je suis encore à terre. J'attache ma ceinture parce que j'ai peur, quoi. Hey. Mais en voiture, non.
Monsieur Bouchénal, c'est bon, on est arrivé. Enlevez la ceinture.
Oui, c'est un peu ça d'ailleurs.
Hey. Ah oui.
Ah ouais.
Tu suis pas les.
Je suis attaché du. Je monte dans l'avion, je suis attaché jusqu'à la fin. Non, je détache jamais. Je détache jamais.
Voilà. Alors justement, on vous a posé la question là en 10 minutes sur les réseaux sociaux. Est-ce que la ceinture à l'arrière, vous la mettez? Est-ce que vous pensez que c'est inconscient de ne pas la mettre? Oui. Bah, vous dites oui, c'est inconscient à plus
inconscient,
de 77%. On se retrouve demain avec le médecin généraliste Jérôme Marty, l'éducateur Abel Bouy, avec la sophrologue Laura Varton-Martinez. Mais si vous aimez la discussion, le débat, Estelle Denis est avec vous là de midi à 15h. Estelle qui sera avec Charles Magnin, Fred Hermel, Jean-Philippe Douy. Bonjour Estelle.
Bonjour Alain, bonjour les GG. Nous allons évidemment parler de ces nouveaux wagons SNCF interdits aux enfants. Est-ce que ça vous choque ou est-ce qu'au contraire vous êtes heureux de voyager sans enfants? Écoutez, on en parle avec vous dans un instant au 32-16. On va parler de ces lunettes de soleil d'Emmanuel Macron. Vous savez, il les porte depuis 4 jours. Alors, sur les réseaux sociaux, certains disent il a un flow de ouf, le président. D'autres, mais c'est d'une ringardise absolue.
Ça se fait plus, les lunettes aviateurs à reflets comme
c'est
ça.
Un peu Top Gun, Tom Cruise, il y a 40 ans. Quoi. Ou pas?
Non, c'est vrai que c'est un peu ringard, mais les siennes sont magnifiques.
Non, ça fait bien.
Mourad, tu en as ou pas?
Non,
dans
non.
Le sud,
Et les lunettes de soleil, mais j'ai pas ça.
Vous savez que...
tu kiffes ou pas, Joël?
Moi, c'est un flow. Moi, je trouvais...
flow de ouf. Ah ouais, je suis d'accord.
C'est de nouveau amoureuse, Joël.
Non.
Non, mais c'est pas ce point-là. Moi, je trouve que c'est. Vous savez comment on écoute ces lunettes?
C'est un bon débat. Peut-on retomber amoureux de Macron?
C'est un peu le débat qu'on va avoir.
500 voilà. Balles.
659 euros la paire. Évidemment, entreprise française. Donc, vous pensez bien que là, ils sont submergés par les appels. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est stylé, voilà, le président de la République avec ses lunettes de soleil, ou est-ce que c'est ringard? On en parle avec vous à midi et demi. On parlera également des Français qui payent de moins en moins par chèque. Ça, ce sera à 13h30. Est-ce qu'ils vont finir avec ce moyen de paiement?
Non.
Mais qui paye encore avec des chèques?
Je gagne un peu de temps sur les temps de valeur à la banque, donc ça m'arrange.
Ah oui, non, mais
faut arrêter.
Ça, c'est que des mecs qui. C'est que des arnaques à l'échec aujourd'hui.
Mais non.
Et pour les personnes très âgées, quoi.
Et puis il y avait une petite combine à l'époque que très peu de gens connaissaient, qui était quand ta signature dépassait.
Ouais.
Et le chèque était traité manuellement et pas informatiquement. Donc il mettait 4-5 jours de plus à être débité.
Je connaissais ça.
Oui.
Alors, super débat.
Alors, moi, je
dirais
que j'ai une signature qui dépasse largement.
Super débat à 14h. On invite de moins en moins à dîner chez soi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'invite plus pour plein de raisons. Est-ce que quand invité à dîner chez soi, est-ce que c'est stressant ou est-ce que c'est réjouissant?
Boulot,
est-ce que vous mettez la pression?
C'est du boulot.
Est-ce que
boulot.
Vous invitez encore?
Moi, j'adore.
Mais est-ce que
aussi.
Tu le fais?
Ah, bah oui, oui.
Tu fais beaucoup.
Ah, oui, on invite. Puis je prends plaisir à choisir les verres,
j'adore
à mettre la table. Oui, bien sûr.
Et bien, il y a de moins en moins.
Alors, moi, on me dit que c'est pas lui qui met la table à la maison. Mais c'est une information qu'on vient me souffler à l'oreille.
Moi, je t'embrasse.
J'ai invité Alain à dîner chez moi. À déjeuner, c'était un plaisir de préparer, de lui faire plaisir.
Non, mais c'est pas ce qu'elle dit. C'est-à-dire que c'est pas.
La malin, il fait rien à la maison.
Moins.
Allez, 32-16 pour réagir avec Estelle. Bonne émission jusqu'à 15h.
RMC, midi 15h. Estelle midi.